Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, on va parler de gangsters.
Il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout.
Alors que la série Le Serpent, portée par Taha Rahim, cartonne sur Netflix, on s'est posé la question, pourquoi le crime, le mal, nous fascine-t-il autant? On pense au film Mesrine, à la French, à la série El Chapo, comment expliquer leur succès? Je vous raconte tout dans un instant. 14h30, les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Didier Bourdon, inoubliable inconnu, qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors par exemple, quel est son pire souvenir en salle?
Je voudrais proposer le premier toast. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ».
Et vous aurez peut-être reconnu Festen de Thomas Vinterberg qui a mis vraiment mal à l'aise Didier Bourdon. Vous verrez ça, il nous racontera tout. Pour connaître ses autres souvenirs cinéma, restez à l'écoute, c'est dans une petite demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour parler des films qui sortent en DVD, VOD et sur vos plateformes. Avant de pouvoir rediscuter des films en salle, ça approche. Au programme aujourd'hui, Oxygène, le nouveau film d'Alexandre Aja. Je vous préviens, faut pas être claustrophobe. On parlera aussi de The Boy from Medellin, un documentaire musical formidable sur Prime Video. Du Monde est à toi de Romain Gavras avec Jenny qui débarque sur OCS et du film Le Monstre sur Netflix. Voilà pour le programme, mais d'abord donc notre récit consacré au film de gangster. Pourquoi ces personnages nous fascinent-ils autant?
Europe 1. Le récit.
Je vais d'abord commencer par vous donner un chiffre. Selon une étude Opinionway, 50% des Français préfèrent les méchants dans les films plutôt que les gentils. L'une des raisons, sans doute, c'est qu'ils ont une certaine complexité psychologique, que l'on a envie de comprendre ce qui les pousse à être aussi méchants. Prenez Jack l'Éventreur, par exemple, qui sévit à Londres à la fin du 19e siècle, époque victorienne. Plus d'une trentaine de films ont raconté son histoire, dont celui interprété par Klaus Kinski.
Bonsoir, docteur.
Oui, bonsoir.
C'est gentil de m'apporter des poupées aussi souvent.
Oui.
Est-ce que je dois l'acheter à l'eau?
Oui, bien sûr.
Quand revenez-vous? Bientôt?
Je ne le sais pas. Qui peut le dire?
Et pour l'anecdote, on découvrira la réelle identité de Jack l'Éventreur que 130 années après les faits. En 2019, grâce à des tests ADN, il s'agissait en fait d'un jeune immigré polonais de 23 ans. Alors je le disais en préambule, le public est fasciné par ces tueurs en série, ces bandits, et en général se précipite donc pour découvrir leur histoire sur grand écran. L'histoire du couple Martin, par exemple, accusé au début du 19e siècle de tuer des voyageurs de passage dans leur auberge, plus de 53 victimes en tout, mieux, il torturait ces victimes avant de les achever. La légende raconte même que les murs de l'auberge avaient été peints en rouge pour éviter les taches de sang. Alors les époux finiront attrapés, condamnés et surtout guillotinés en 1933. 30 000 personnes d'ailleurs avaient fait le déplacement pour assister à leur exécution. Dès 1951, leur histoire est adaptée dans L'Auberge Rouge, film avec Fernandel qui joue un moine auquel va venir se confier Madame l'aubergiste. Il va tout faire pour sauver les voyageurs.
Et puis au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelle. Il est encore ici? Je me rappelle bien où, parce que c'était le premier. Dans le jardin, sous le châtaignier.
Sous le châtaignier? Dans la terre?
Et oui, dans la terre, puisqu'il était mort.
L'Auberge Rouge, de nouveau, adapté en 2007, avec cette fois au casting Christian Clavier, Josiane Balasco et Gérard Jugnot. Alors le plus souvent, ces films sont écrits sous forme d'enquête, ce qui crée un suspense. Prenez l'affaire SK1 par exemple, qui retrace la traque du tueur en série Guy Georges qui sévissait à Paris dans les années 90. Le film décide de suivre l'enquête de l'inspecteur Franck Magne, joué par Raphaël Personnas.
Les analyses ADN sont tombées, c'est le même homme. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. On a officiellement affaire à un tueur en série qui sévit dans l'Est parisien et qui apparemment choisit ses victimes au hasard.
Regardez aussi plus récemment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'hebdomadaire Society qui a sorti 2 numéros spéciaux s'est vendu à 270 000 exemplaires, c'est 4 fois plus que d'habitude. Et du coup, cette enquête va être adaptée en série. Et il faut dire que la criminologie et le profil psychologique des tueurs passionnent le public. Preuve en est avec le succès de la série Mindhunter sur Netflix, qui raconte comment une cellule du FBI essaie de comprendre la psychologie des plus grands tueurs en série des États-Unis.
C'est pas simple de massacrer des gens. C'est une tâche difficile. Physiquement et mentalement, je crois pas que les gens réalisent. On a besoin d'évacuer.
N'est-on criminel ou est-ce qu'on le devient ?
Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier.
On n'est pas là pour sympathiser avec eux. On est là pour les électrocuter.
Et puis parfois, certains réalisateurs décident d'épouser le point de vue du criminel en quelque sorte. Exemple avec Mesrine de Jean-François Richer que nous recevons tout à l'heure. Adapté de la biographie du gangster, Mesrine joué par Vincent Cassel.
On peut y aller, monsieur Mérine ?
Je vous en prie, Isabelle.
Pourquoi faites-vous tout ça ?
Parce que j'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Moi, je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire « Tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. » Non. Qu'est-ce que je fais, moi ? Bah, hein ? Chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les banques.
Vincent Cassel qui revenait sur son rôle au micro d'Europe 1.
Mon personnage, il y avait un avantage, personne ne savait vraiment comment il se déplaçait, comment il bougeait, quelle apparence physique et quel personnage il était à l'image, je dirais. Du coup, ça m'a un peu laissé libre champ. Il y a toujours un risque, surtout sur une aventure comme ça, sur deux films qui durent 9 mois. J'ai pas l'impression d'avoir été Mérine pendant 9 mois. J'ai le souvenir d'un tournage, j'ai le souvenir d'avoir appris des choses dans mon travail, d'avoir expérimenté des nouvelles manières de bosser. Et puis même le fait de travailler sur une si longue période, en fait, j'ai appris à mieux gérer mon énergie, je dirais.
Chaque volet de ce diptyque Mesrine cumula près de 2 millions d'entrées en salle. Autre exemple plus récent, La French de Cédric Jiménez, qui raconte la vie du Marseillais Gaëtan Zampa, baron de la drogue dans les années 70 et 80. C'est lui qui était à la tête de la French Connection, un réseau de mafieux impliqué notamment dans le trafic d'héroïne. Jiménez filme le quotidien de Zampa, avec ses amis, sa famille, ses employés en quelque sorte. Il décide en fait d'épouser son point de vue.
Cette ville, je la connais centimètre par centimètre. Je suis parti 6 ans à Paris, à la Mondaine. Depuis que je suis revenu, je me sens plus chez moi. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pieuvre. Ils ont commencé par prendre tous les restos et les bistrots, tous les endroits où la monnaie tombe régulièrement. Pas moyen de tenir une affaire qui tourne sans qu'il vous tombe sur le coin de la gueule pour vous proposer l'association. Et quand je dis association, c'est un mot poli pour dire racket, évidemment. Avec une combi, là, vieille comme la bonne mère. D'abord, une bagarre éclate, puis une autre, puis une troisième. Et là, je viens de proposer le protection. Et je peux vous dire que personne n'a envie de dire non.
Au casting de la French, Gilles Lelouch, qui incarne Zampa, et Jean Dujardin, qui joue, lui, le juge Michel, sur ses traces. Ils étaient tous les deux au micro d'Europe 1.
On avait le bon âge et c'était le bon moment. Franchement, on a vu arriver ce scénar en se disant « C'est quand même incroyable que ça nous tombe dessus, ce truc-là. »
On n'était pas dans une histoire légère d'aller boire des verres et de profiter de la vie. On était vraiment très, 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 très impliqués dans le film. On était très conscients de la chance qu'on avait de faire ce film, donc on était très sérieux.
Ce qui nous permet de souligner aussi d'ailleurs que l'autre grande inspiration du cinéma, ce sont justement ces narcotrafiquants. Car les cartels fascinent le grand public et le questionnent aussi. Il faut dire que c'est un univers qu'il est impossible d'intégrer, un univers avec ses codes, ses règles, un univers qui fait fantasmer en quelque sorte. On pense au film Capone sur Al Capone avec Tom Hardy, ou encore à la série El Chapeau qui raconte l'évasion de prison du célèbre baron de la drogue, Joaquin Guzman.
Quel est votre métier ?
Je suis agriculteur.
Pourquoi avez-vous fait usage d'armes à feu ?
C'est faux, je n'ai jamais utilisé d'armes.
El Chapeau, le narcotrafiquant le plus important du Mexique. Sa capture doit être la victoire contre le narcotrafic.
J'ai terminé le tunnel. Personne ne peut m'arrêter.
J'ai prié le Seigneur tous les jours pour toi, mon fils.
T'en fais pas pour moi. Je suis indestructible.
Souvent d'ailleurs, et c'était aussi le cas dans la série Pablo sur Netflix, sur Pablo Escobar, le réalisateur nous présente le bandit dans sa vie quotidienne, sa vie de famille, avec ses enfants, ses problèmes de couple. Souvent, ils sont présentés en fait comme des gens normaux. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Olivia Sayas avec Carlos, son film sur le terroriste vénézuélien, film sorti en 2010. Edgar Ramirez interprète Carlos à l'écran. Il en parlait sur Europe 1.
Je crois qu'Olivier a créé un personnage extraordinaire, plein de contradictions, parce que presque tout le monde, on connaît moi-même avant le film, ou un terroriste, ou un héros pour d'autres. Et je crois que le film voulait montrer Carlos dans un niveau plus humain. Ça ne veut dire pas qu'on glorifie ou satanise Carlos.
Et les exemples sont nombreux. Alors comment on réalise un film de truands, de bandits? Quels sont les codes, les écueils à éviter? Et surtout, pourquoi ces bandits fascinent toujours autant le public? Ces questions, je les pose dans un tout petit instant à Jean-François Richer, réalisateur notamment du diptyque Mesrine. Mais on va d'abord écouter un extrait de la bande originale de La French de Cédric Jiménez, dont je vous parlais il y a quelques minutes. C'est Sheila qui interprète Bang Bang. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
14h-15h sur Europe 1. Clap.
Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon. Bang bang, tu t'amusais. Bang bang, je te suivais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Avec elle, tu es parti. Bang bang, tu m'as quitté. Bang bang, je suis resté. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré. Bang bang, je me souviens. Bang bang, tout me revient. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces bandits, ces truands qui ont inspiré de grands films au cinéma, des films qui d'ailleurs bien souvent marchent en salle. Et je voulais, pour en parler et continuer notre réflexion, recevoir Jean-François Richer qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur notamment, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement, du diptyque Mesrine. C'était il y a quelques années, maintenant 2008-2009 je crois.
C'est ça, 2008-2009, oui, c'est ça.
Alors déjà, première question. Pourquoi à l'époque vous intéressez à ce personnage, puisqu'il est devenu un personnage, à cet homme Mesrine, et pourquoi vous décidez d'en faire un film?
Déjà, c'est Thomas Langman qui me l'avait proposé. Donc, on a écrit le scénario avec Abdel Raouf Dafri, qui avait écrit aussi Un prophète, et puis plus tard la série Braco. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on pouvait parler de la société française comme véhicule un petit personnage. Alors c'est pas du tout péjoratif, mais justement, par exemple, c'est pas Napoléon, quoi, c'est pas Charles de Gaulle, mais on pouvait raconter on va dire une partie des années 60 et des années 70. Et moi, ce qui m'intéressait plus que le cursus de gangster, et d'ailleurs on peut voir dans les deux films de sur Mérine, il y a très peu de braquage. Si j'ai de bonne mémoire, il doit y avoir en tout, peut-être de 2 fois 3 minutes braquage. C'est pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment surtout la société française et surtout comment un jeune qui est pendant la guerre d'Algérie, qui côtoie sans en faire partie plus ou moins l'OAS, comment lui, 15 ans plus tard, pense à rejoindre les Brigades Rouges. Ça m'intéressait, cet angle-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire le film.
Oui, c'est-à-dire le côté aussi comment à travers ces ces personnages, en l'occurrence Mérine, mais il y en a d'autres dans ce type de film, comment on raconte une société, l'évolution d'un personnage et comment parfois la société fabrique ses propres démons.
Ouais, et puis alors, je trouve qu'en plus, alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça un polar, parce que ce n'est pas un film de flic justement, même si aussi il est présent toujours, la police se présente, on va dire, elle est derrière toujours. C'est un excellent véhicule pour parler de notre société. On peut s'apercevoir que maintenant, on peut revoir, et ça n'a pas vieilli d'un pouce, on peut revoir des Melville très facilement, des Clouseau. Je trouve que le polar est un style, en tout cas au cinéma et aussi d'ailleurs en littérature, est un style qui vieillit pas. C'est même peut-être un style qui se bonifie avec le temps.
Est-ce que quand on réalise un film comme ça, on n'a pas peur quelque part de glorifier l'homme dont on parle, en l'occurrence, qui est quand même un homme qui a tué des gens? Est-ce qu'on a cette petite crainte? Est-ce qu'on y fait attention?
Oui, oui, moi je voulais surtout pas qu'on efface les zones d'ombre. Et puis c'est pas parce que c'était l'ennemi public numéro un qu'il n'était pas marrant, par exemple. Donc il faut le mettre aussi en avance. Quand moi je parlais aux gens qui l'ont connu, ils disaient mais c'était Coluche, il y avait une blague à la minute. Il avait un sens de l'amitié, mais ce qui ne sous-entend pas qu'on ne doit pas montrer ces zones noires. Moi je pense que je les ai fait aussi. J'essaie oui de faire la part des choses. J'essaie toujours d'être, alors évidemment avec mon point de vue de réalisateur. Et puis mon point de vue humain, j'essaie juste d'être juste. Faire un film à charge, je ne vois pas l'intérêt. Faire un film où on le glorifie, je ne vois pas non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu et que la vie, même si maintenant notre société, elle nous fait croire que c'est soit tout blanc, soit tout noir, moi je pense que la vie, elle, c'est qu'une zone de gris. Et que mes personnages aussi. Donc non, le glorifier, surtout pas. Et être à charge, surtout pas non plus.
Pourquoi selon vous, ces bandits, on va dire au sens large, ils sont si populaires? Parce que c'est vrai que, voilà, on les aime bien, je ne sais pas pourquoi.
Ah ben, je pense que c'est très français. Alors peut-être qu'aussi, évidemment, il n'y a pas que la France comme ça, mais on aime bien les personnages qui savent dire non. On leur pardonne beaucoup de choses. Il y a quelque chose un peu d'héroïque de dire non, et puis de braver l'État. On sait ce que c'est que la machine d'État, hein. Ça peut être un rouleau compresseur. Et lui, il en avait conscience. Il y a un côté un peu suicidaire, il y a beaucoup de l'Oriole. Ça ne veut pas dire qu'on crédite tout ce qu'il a pu faire. Mais il y a quand même, dans le personnage de Mérine, et d'ailleurs, je dirais, peut-être que Mérine, c'est une des exceptions. Tous les bandits de grand chemin ne sont pas comme ça. Mais il a une espèce d'aura assez sympathique, mine de rien. Puis il y a le côté provocateur, il y a le côté grande gueule. Alors qu'il est ennemi public numéro un, il fait la une, c'est lui qui le demande, hein, il fait la une de Paris Match quand même. C'est assez incroyable. Si on remet dans le contexte de l'époque, et puis il menace ouvertement le ministre de l'Intérieur en lui disant en gros un jour je vais venir chez vous, quoi. C'est ça le sous-texte. Si on remet ça maintenant à notre contexte actuel en 2021, on imagine quelqu'un qui est ennemi public numéro un et qui provoque et qui fait la une de Paris Match et qui menace le premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, ça serait un peu foufou, quoi.
Mais finalement c'est presque, on les aime aussi parce qu'il y a une nostalgie sans doute d'une certaine liberté perdu.
Oui. Oui, en ayant enquêté vraiment longtemps, et d'ailleurs dans le film j'ai révélé des choses, je suis même étonné que les journalistes ne l'aient pas les relevé, mais j'ai relevé des choses parce que je les ai entendues moi-même, en tout cas en bande audio, etc., des avocats, des discussions, par exemple l'évasion, de la santé, etc. Il a le côté que, moi je pense qu'il a tué une personne qui est le proxénète qui a défiguré une femme qu'il aimait. Au-delà de ça, je pense pas qu'il a de crimes de sang, en tout cas très 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 peu. Il faut pas croire son livre. D'ailleurs, il le dit dans son livre. Il dit moi, j'ai écrit ça parce que les gens ils veulent du spectacle, un peu comme au cinéma hollywoodien. À part ça, on peut se poser la question si c'est moral ou pas de tuer quelqu'un qui a défiguré une femme. Voilà, je laisse à chacun sa libre conscience. À part ça, il tue pas des innocents. Évidemment, il a enlevé un milliardaire, mais il s'en prend pas aux enfants. Je dirais, il y a un certain code d'honneur à l'ancienne, quand même, qui était dans cette société de l'époque aussi. Là, on s'aperçoit que dans la rue, il y a des gens maintenant qui meurent, qui sont agressés pour rien. À l'époque, c'était pas tout à fait comme ça, quand même. Donc, je comprends pourquoi il y a cette fascination.
Justement, vous parlez de code. Est-ce qu'il y a des codes particuliers dans ces films-là? Parce qu'on a l'impression, quand même, que c'est des films qui sont très masculins, j'allais dire, ou très testostéronés.
Ben, moi, j'étais très étonné que le public féminin adhère au personnage de Mérine. D'une, tous mes personnages féminins, il a quand même, on s'aperçoit comment il le transforme et comment, en plus, elles peuvent l'épauler, comment elles l'aiment et comment il peut les aimer. je dirais, c'est masculin, je sais pas si c'est testostérone ou masculin. En tout cas, être bandit du grand chemin, à l'époque, c'est plus masculin que féminin. Mmh. C'est plus, alors, j'imagine aussi maintenant, quelqu'un qui prend une calache, qui va faire un braquage de à l'heure actuelle, d'un fourgon, c'est plus des hommes que des femmes. Mmh. Donc je ne pense pas en termes de masculin ou féminin. Je pense qu'il y a des femmes qui pourraient le faire, mais en tout cas historiquement, Mérine n'était pas une femme. Et puis les braquages en général, peut-être sauf exception, parce que c'est pas du tout mon domaine. Ce sont des hommes, mais je fais toujours attention aux personnages féminins. De toute façon, je veux dire un homme sans une femme, je veux dire une lapalissade, mais c'est pas grand chose. Un homme sans une femme. Donc et je pense que ces femmes jusqu'au bout, enfin c'est quand même des caractères forts, hein, les femmes qu'il a rencontrées. Hein. Moi j'ai rencontré Janou. Celle à un moment il fait le braquage et tout ça avec elle dans la salle de jeu, c'était une femme incroyable, extraordinaire, une femme qu'il a aimée et qui l'a amenée très 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 loin. Ils ont été en prison, elle a été en prison, elle s'est enfuie au Canada avec lui, mais elle l'aimait toujours.
Ouais.
Elle était incroyable, cette femme Janou, elle s'appelait incroyable.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Richer d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui pour parler de ces films de bandits, de truands et notamment de votre diptyque Mesrine qui est toujours, j'imagine, disponible. On peut le voir sur une plateforme ou c'est que en DVD, VOD ?
Eh bien, écoutez, il est resté très 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 longtemps sur Netflix et même Netflix US où on faisait un carton. Il est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'imagine qu'il va revenir. Bon. Et puis même à l'écran, il passe assez régulièrement sur les chaînes hertziennes maintenant.
Bon, ben, voilà.
Ça, je suis vraiment content de ça.
Bon, ben, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu ou qui voudraient le revoir, il faut surveiller tout ça. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
Merci, au revoir.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, le temps d'accueillir Didier Bourdon et d'ouvrir notre séquence Les films de ma vie. On va revivre avec lui ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux maintenant d'accueillir pour notre séquence Les films de ma vie, Didier Bourdon. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors, on va parler cinéma, mais vous êtes là pour un album, parce qu'on s'était vu il y a quelques années déjà dans une émission cinéma sur Europe 1, et je me rappelle que vous parliez de votre passion aussi pour la chanson, donc vous sortez un album.
Tout à fait, voilà, qui s'appelle Le Bourdon.
Et le premier single est sorti hier, et ça s'appelle Pourquoi tu te mets à la chanson, ça s'invente pas, c'est parce qu'on vous demande tout le temps ça.
Voilà, c'est pour ça, c'est mon producteur aussi qui m'a demandé de sortir cette chanson en premier, que j'aime beaucoup d'ailleurs cette chanson, de toute façon je les aime toutes, hein, mais disons que voilà, oui, c'était évident parce que voilà, la plupart du temps, dès qu'on contacte un peu des journalistes ou même des gens dans la rue, ah tu te mets à la chanson, puis dès qu'on rappelle les chansons des inconnus, tout, ah bah oui, c'est vrai, c'était pas nouveau dans la chanson. Voilà, c'est juste une histoire de démarrer par un petit clin d'œil, quoi.
Donc voilà, le single, nos auditeurs peuvent déjà l'écouter et l'album il sortira le 11 juin et ça s'appelle Le Bourdon. Est-ce que vous êtes prêts pour notre questionnaire ?
Ben on va dire que oui.
C'est parti. Votre meilleur souvenir en salle, Didier Bourdon ?
Ben les trois frères à Madrid ou au Japon peut-être.
Ah oui ?
Non, oui, ça me vient comme ça. Hein. Franchement, les questions sont inédites hein, pour moi. Et je vous réponds oui, au Japon et à Madrid, parce que c'est un peu la même chose. Mais au Japon, je me souviens, on l'avait présenté et des gens nous avaient dit, vous savez, ils vont pas rire partout parce que les avocats, ils connaissent pas, les notaires, ils connaissent pas. Et en fait, ils ont rigolé exactement aux mêmes endroits qu'en France.
Vous avez fait part lors de notre dernière entrevue du codicille suspensionné par votre maman.
Non, pourquoi il y a quelque chose en plus ?
Suivant ce codicille, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman nous a quittés il y a 2 ans. Et 2 jours.
Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où ? Les sans patates.
Mais les sans patates.
L'héritage.
Ça m'étonne pas parce que moi j'ai vu des films après de Kitano, qui est un humoriste japonais très connu, qui a fait des films magnifiques. Moi ça me fait rire aussi.
Oui, c'est ça l'humour, ça marche partout. Quand c'est drôle.
Quand c'est universel aussi, parce qu'il peut y avoir des humours très drôles, mais un peu. Voilà, il faut avoir des références. Mais bon, là, sur la connerie humaine, franchement, si un notaire, dans quelque langue que soit, dit gêné, merde, à 2 jours près, vous avez perdu votre héritage, je peux vous dire que ce soit en finlandais ou en finnois ou en japonais, on comprend. Quoi. Ouais.
Votre pire souvenir en salle, Didier Bourdon ?
Ah, alors, je vais faire un double compliment. C'est Festen, peut-être. Parce que Festen, j'ai failli sortir tellement ça m'a foutu mal à l'aise, mais dans le bon sens du terme.
C'est ça.
Quand parce qu'il nous couillonne bien ce réalisateur d'ailleurs qui a été primé il y a pas longtemps encore. Parce que il y a les deux frères, et on se dit merde, c'est celui qui est un peu borderline qui va foutre le bordel. Et en fait non, c'est celui qui ressemble à Sting là, qui d'un seul coup se lève et à chaque fois qu'il tape sur le verre, il va dire une horreur. Et j'ai failli sortir à un moment donné quand il tape sur le verre, qu'est-ce qu'il va dire là, c'est tellement c'est prenant quoi.
Navré de vous déranger encore. En 74, tu es entrée sans frapper, ma chère maman, dans le bureau, et tu as vu ton fils à quatre pattes, et tu as vu ton mari, le pantalon sur les pieds. Je m'excuse que tu aies vu ton fils comme ça. Je m'excuse aussi que ton mari t'ait dit de dégager, que tu sois sortie sans hésiter. Je m'excuse que tu sois tellement hypocrite et tellement fausse que j'espère que tu en mourras.
Vous êtes resté quand même, parce que c'est ça le cinéma.
Ah, je suis resté quand même, ouais. Je suis resté, mais voilà, c'est des moments forts. Quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a un film dans lequel vous aimeriez vivre, Didier Bourdon?
Elle a plein. La base, c'est d'être heureux. Hein. On peut être heureux à l'époque de Barry Lyndon. On peut être aussi très malheureux, bien sûr. On peut être heureux au Moyen-Âge. Il y a des moments... Voilà. Moi, quand j'étais enfant, même aujourd'hui, je voyais un film du Moyen-Âge. D'un seul coup, je sortais, j'étais sur un cheval avec une armure. Hein. l'époque du 18, du 17e aussi, c'était beau. Hein. En plus, j'habitais, je me souviens, à Biarritz. Il y a bien sûr les monuments de Vauban et j'adorais ça. J'avais l'impression de... avec les grandes fenêtres du 17e, de prendre mon cheval, mon épée, d'aller à la rencontre d'une jolie dame. Enfin, c'est fort le cinéma pour ça. C'est vrai qu'on a envie de, voilà, dans La maîtresse du geste en français, c'est très beau ce film-là, parce que là, il y a les deux époques. Et c'est assez troublant, parce qu'on aime bien quand on est dans le passé, dans l'histoire. Puis dès qu'on revient à la réalité, on est un peu choqué. C'est très beau, c'est une belle idée de ce tuteur anglais, là, le scénariste. Alors, bien sûr, dès que je réfléchis, je vais avoir un trou, mais qu'il y a eu un prix Nobel. Harold Pinter, voilà.
Pourquoi ne quittez-vous pas Lyme?
Je ne peux pas partir.
Mais pourquoi? Aucune attache familiale, je crois, ne vous retient dans le Dorset.
J'ai des attaches.
Cet officier français? S'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas digne de vous. S'il revient...
Jamais il ne reviendra.
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer?
Non, j'ai pas honte, moi. Moi, quand j'aime, j'aime. Alors là, franchement, c'est... je les emmerde. Alors non, franchement, alors, honte... Alors, je dis pas jeune, hein, peut-être, ouais, comme ma fille aujourd'hui. Oh, m'accompagne pas, on me prend pas la main. Non, non, au contraire, je trouve que c'est même une éducation, c'est l'humour qui fait ça, c'est qu'au contraire, faut y aller à fond. Même dans le jeu, hein, je lis souvent dans Stéphanie de Monaco, le personnage de Véronique, il est peut-être très con, mais je le défends.
Il y a une personne ici qui répond au numéro 863. Le 863, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Et j'aime pas quand les gens disent, ah, très con. Non, non, et c'est Véronique. Voilà, bon, bah écoute, elle a pas eu la chance que t'as eu d'avoir un cerveau peut-être mieux fait et une formation, donc respecte-la quand même. On peut rire avec elle, c'est ça, avoir l'humour, mais voilà.
Une charmante demoiselle qui se prénomme Véronique. Bonsoir Véronique, bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potet.
C'est bien.
Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt caissière à maman.
Bah c'est pareil, s'il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que je voilà, profondément, je pense que c'est digne de... Après je peux comprendre qu'on ne l'aime pas, hein, mais je veux pas être honteux en disant non, j'aime... Ouais.
Quel est le film que vous avez le plus vu, Didier Bourdon?
Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup aimé Mort à Venise de Visconti, parce que je trouvais que j'aimais beaucoup Dirk Bogarde, j'aimais beaucoup cette ambiance, bien sûr la musique de Mahler. Et puis dans le film, il y avait une jeune fille qui ressemblait à la fille dont j'étais amoureux à l'époque. il y avait un peu de tout ça, puis la poésie, ce côté un peu dégradé, puis Visconti quand même. Après aussi, j'ai beaucoup aimé Le Crépuscule des Dieux, qui est un film d'ailleurs qui a très bien vieilli. Par exemple, Mort à Venise, j'ai essayé de le revoir sur petit écran, c'est difficile. Ouais. C'est là, vraiment, c'est difficile.
La beauté. Tu veux dire ta conception spirituelle de la beauté. Quoi? Prétendrais-tu que le génie d'un artiste soit incapable de la créer? Oui, c'est très précisément ce que je prétends. Alors, selon toi, notre travail d'artiste... Travail, le mot est lâché. Crois-tu sincèrement que la beauté puisse être le fruit d'un travail?
Il y en a plein que, si par exemple, voilà, c'est un peu le hasard. Si il suffit que je tombe dessus, puis je replonge dedans. Barry Lyndon, l'autre fois, je suis tombé dedans. Même 2001, l'Odyssée de l'espace, j'étais avec ma maman, on est tombé dedans, quoi. La fin est toujours décevante, mais je crois que ça représente la vie, en fait. La fin est toujours décevante.
Est-ce que vous pouvez me citer la plus belle scène de cinéma, selon vous?
Bien sûr, il y a des scènes magnifiques. Bon, dans César et Rosalie, je sais pas pourquoi. Entre Yves Montand et Romy Schneider, des choses formidables. En plus, il ressemble à mon papa un peu, Yves Montand. Non, je sais pas pourquoi, je traverse mes scènes extraordinaires. Puis là, par exemple, une scène d'un film, le reste un peu bizarre, mais la scène où il fait le gorille, là, dans un film un peu nordique, là, je sais pas comment ça s'appelle.
Palme d'Or à Cannes, The Square.
Ouais, The Square, bon, il y a des trucs, mais cette scène-là, elle est remarquable.
Je vous demande la plus grande prudence pendant la performance qui va suivre.
Bienvenue dans la jungle. Bientôt, vous allez vous retrouver face à une bête sauvage. Comme vous le savez tous, c'est la faiblesse qui éveille l'instinct du chasseur. Si vous montrez que vous avez peur, l'animal le sentira. Mais si vous restez parfaitement immobile, sans bouger d'un pouce, il se peut que l'animal ne vous remarque pas. Et vous pourrez vous cacher au milieu du troupeau, rassuré à l'idée qu'un autre que vous sera la proie.
Elle fout mal à l'aise comme Festen. Parce que quand est-ce qu'il va arrêter, quoi?
Et jusqu'où il va aller?
Ouais. J'aime bien l'audace, mais c'est un truc qu'on retrouve dans le comique. Hein. Moi, je sais que je l'ai fait, parfois un peu trop, d'ailleurs on a gommé, mais j'aimais bien pousser jusqu'au bout, même sur scène. On est là pour ça aussi, voir jusqu'où on peut aller, ne pas se complaire là-dedans. Parfois on va trop loin, bon, faut couper. Mais au cinéma, voir jusqu'où on peut aller. Parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais ne pas se brider. Et c'est souvent ça, les grandes scènes de cinéma, on va dire, c'est ça.
Quel est le film qui vous a fait le plus pleurer, Didier Bourdon ?
Il y en a beaucoup. Alors aujourd'hui, je pleure plus qu'avant. Mais bon, je suis pas le seul, parce que même Flaubert disait qu'en vieillissant, il pleurait de plus en plus. Il avait l'âme à l'eau de rose. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une pub où je vois, par exemple, la grand-mère là, qui grâce à son vaccin peut retrouver ses petits-enfants, moi ça me met les larmes aux yeux. Ouais. Bon. Et non, alors pleurer, oui, y a plein de films. Bon, non, mais même je zappe, hein. Le moment de Barry Lyndon où il raconte l'histoire de l'attaque des soldats au moment où son enfant va mourir, moi je peux plus regarder ça, c'est fini, ça je peux pas.
Papa, si je meurs, je monterai au ciel.
Oui, mon chéri, tu monteras au ciel. Mais tu ne vas pas mourir.
Et pour finir, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Ah, Barry Lyndon, encore une fois. Je parle vraiment dans l'ensemble.
On nous la cite souvent.
Bah oui, pourquoi? Parce qu'il y en a, il y a plein de morceaux différents, quoi. Que ça passe de Handel à Schubert, en passant par un morceau que j'adore du folklore irlandais. Il y a un petit morceau de Mozart qui est formidable, de Ido Mené, là. Il y a vraiment une réussite dans l'ensemble. Après, c'est un film aussi qui se prête à ça. Hein. Les comédies, on souffre un peu de ça, parce que dans les comédies, on peut pas mettre trop de musique, parce que la musique est dans les paroles, dans les situations. Mais on peut pas trop en mettre.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Didier Bourdon d'avoir joué le jeu de ce questionnaire Les Films de ma vie. Et donc j'invite nos auditeurs à découvrir le Didier Bourdon chanteur. Ça s'appelle Le Bourdon, c'est votre disque qui sortira le 11 juin. Et en attendant, le single qui est sorti hier, Pourquoi tu te mets à la chanson. Et vous nous avez expliqué pourquoi juste au début de cette séquence. Merci d'avoir fait un détour par le studio de Clap.
Merci.
Et on se retrouve dans un instant. Le temps d'accueillir Thierry Chaise et Fabrice Leclerc, mes collègues critiques, pour débattre aujourd'hui des films Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent sur Netflix, du documentaire musical The Boy from Medellin sur Prime Video, du Monde est à toi de Romain Gavras avec notamment Isabelle Adjani, ça c'est sur OCS, et du Monstre sur Netflix. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve pour la dernière partie de Clap. J'accueille maintenant dans ce studio Thierry Chaise du magazine Première et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'est la dernière semaine, on va parler que de films en plateforme, en VOD, en DVD, puisque ça y est, les cinémas rouvriront. Et donc, la semaine prochaine, on commencera à vous donner des conseils pour retourner nombreux en salle le 19. Mais au programme aujourd'hui, on va parler du monstre sur Netflix, du Monde est à toi, qui débarque sur OCS, de The Boy from Medellin. C'est un très beau documentaire, je trouve, sur Prime Video. Et Oxygène, le nouveau film d'Alexandre Aja sur Netflix. Mais on commence donc avec le monstre.
Le jour où tu es né, j'ai imaginé tout ce que tu allais vivre. Rencontrer une jolie fille. J'avais même imaginé m'énerver à cause des conneries classiques d'ado. Mais j'avais pas envisagé tout ça.
C'est un monstre!
Un instant peut-il définir le reste de ma vie ?
Et c'est toute la question de ce film. Un instant peut-il définir le reste de ma vie ? Notre personnage principal, c'est Steve, incarné par Calvin Harrison. C'est un jeune homme sans histoire. Il vit dans une famille afro-américaine assez exemplaire. Il prend de très jolies photos dans le métro, dans la rue, des scènes de vie très belles. Voilà, il a un avenir radieux qui semble s'ouvrir à lui lorsqu'il est accusé de meurtre, arrêté, emprisonné. Alors vous allez me dire, c'était la voix de son papa qu'on entendait dans la bande-annonce au début. Alors vous allez me dire, on a déjà vu ça 1000 fois, le jeune homme promis un bel avenir, accusé de meurtre.
On va vous le dire,
petit moment, voilà. Pour moi, il y a un mais, parce que je trouve qu'il y a quand même une réalisation et qu'on passe pas un mauvais moment. Fabrice Leclerc.
Mais on l'a déjà vu 1000 fois.
Oui,
voilà. Non, moi j'avais vu la bande-annonce, ça fait un certain temps.
Et belle.
Ça m'avait vraiment attiré. Et j'ai les 5-10 premières minutes du film, je me suis dit, ah voilà, c'est bien, on va enfin sortir du film de procès. De la condition des Noirs aux États-Unis et des films qu'on a déjà vus 10 fois. Il y a eu des documentaires, il y a eu des films qui ont été faits sur les Blacks qui sont accusés, souvent de manière totalement illicite, souvent des jeunes. Et justement, il y a une très, très belle phrase dans le film, c'est juste parce qu'il est noir. Voilà. Ouais. Il est noir, il est jeune, donc il a beaucoup de défauts pour la justice américaine. Voilà, c'est l'énième film de procès. Je ne vous dis pas la fin, mais je pense que vous l'avez déjà compris. Moi, je me disais que voilà, bon, déjà vu, malheureusement déjà vu, très bien joué, pas très bien écrit parce que c'est vraiment une diatribe entre le procureur, l'avocate, le jeune, il y a des flashbacks, il y a une forme de scénario, puis il y a un peu, beaucoup de choses quand même dans le film, non ?
Alors, c'est le monstre !
À sa décharge, c'est un film qui date de 2017 ou 2018.
Oui, il y a mis du temps
et que le mouvement Black Lives Matter a fait que beaucoup de films sur ces sujets sont venus ces dernières années. Ouais. Il y est pour rien s'il sort maintenant.
Non.
Moi, alors ce que j'ai plutôt aimé, c'est la tentative de casser un peu le film de procès. L'idée que ce soit un apprenti cinéaste fait que d'un coup, il regarde le monde un peu différemment.
Oh, le gimmick. Hein.
Voilà, oui, mais au moins, ça. Après.
Laissez-le essayer de sauver ce film.
Après, il y a une telle volonté du réalisateur, du scénariste, d'expliquer les choses que c'est contre-productif. C'est-à-dire que c'est tellement bien joué qu'on pourrait enlever des dialogues. Alors, c'est construit comme Rashomon, je dirais. Et évidemment, le professeur de cinéma explique Rashomon. Il n'y a aucune marge laissée au spectateur, et c'est ce que je regrette. Voilà.
Rien de mieux, rien de pire. Non, vous avez tout dit, messieurs.
Aucune prise de distance.
Le monstre, c'est sur Netflix. Je suis content maintenant qu'on redise un mot. Le film était sorti il y a quelques années, mais comme il débarque sur OCS, je voulais qu'on en reparle. Du Monde est à toi, signé Romain Gavras, avec notamment Isabelle Adjani, Karim Leclou ou Vincent Cassel.
C'est quoi ton projet ?
Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb.
On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux boulanger, un autre pompier.
Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Tu les as pas joués, mes économies, hein, tu m'as pas fait ça.
Mais en fait, tu prends pour qui ?
Mais pourquoi t'as fait ça ?
Il faut qu'ils aient peur de nous.
T'es complètement con, quoi. Un gamin, c'est précieux.
Tu veux que je me fasse crier à la mort ?
C'est la vie. T'as bien fait de l'appeler ta mère.
Vous avez peut-être reconnu, il y a François Damiens aussi que j'ai oublié de citer dans ce film. Alors voilà, Karim Leclou, vous avez compris, joue François, un petit dealer de banlieue qui veut ouvrir la franchise de Glass Mr Freeze au Maroc. Il demande à sa maman Isabelle Adjani de lui rendre toutes ses économies, sauf que cette maman gangsta à la tête d'un gang qui cambriole les grands magasins déguisés en saoudienne, eh bien elle a tout perdu au jeu. François se retrouve donc obligé de faire un ultime go-fast depuis l'Espagne, de ramener de la drogue pour le compte de Poutine, ça c'est le dealer de la cité. Il y va avec deux bras droits, enfin plutôt deux bras gauches, les deux Mohamed plus stupides l'un que l'autre. Voilà, c'est un film très clippé, très pop, qui avait été présenté à Cannes il y a quelques années. Moi, j'en garde un très très bon souvenir, je ne l'ai pas revu pour l'émission, mais Thierry, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du Monde est à toi ?
J'en gardais un souvenir assez épouvantable,
Je
l'ai revu. Alors moi, c'est vraiment, ça marche. Il y a quelque chose qui me gêne, mais qui me gênait déjà dans Notre jour viendra. C'est, ça me fait toujours penser à quelque chose. Donc, quand tu reviendras, ton premier film, c'était entre Blier et Bruno Dumont. Là, ce qui est bien, c'est un voyage dans ma jeunesse. On est dans les années 90, début des années 2000. une production Besson, un peu de Guy Ritchie, et on y va. Et je trouve, en fait, moi, je trouve que c'est très bien joué par certains acteurs, Karim Leclou, François Damiens. Moi, il y a toujours une dose de cynisme qui me gêne, en fait. Et lorsque je vois Isabelle Adjani se donner à corps perdu, je regrette qu'elle ne soit pas regardée, et je pense plus à l'Isabelle Adjani de Toxic Affair qu'à l'Isabelle Adjani des grands rôles. Mais pour moi, parce que ce n'est pas un directeur d'acteur, et tout ça, alors, c'est pas désagréable.
Hein. Non,
c'est
pas, quand même.
C'est pas désagréable, mais je suis gêné tout du long, parce que, pour moi, il y a un regard posé qui est... Oui, il y a un cynisme qui c'est me vrai. Dérange, alors que j'ai envie de quelque chose, d'être avec les personnages. On peut faire de la comédie burlesque et être avec les personnages. Je trouve que ce n'est pas le cas de Romain Gavras.
Bon,
non, mais alors, moi,
Fabrice,
le
monde est à toi.
Je pars exactement du même endroit que Thierry, mais pour aller...
Vous allez à l'opposé.
Ouais, pour être aussi. Totalement en désaccord. Pourquoi ? Parce que alors, je vais sûrement énerver beaucoup de gens en disant ça. Je ne trouve pas que Romain Gavras soit pétri de talent. C'est Romain Gavras, il a vu beaucoup de films, beaucoup de cinéastes, et il fait un espèce de melting pot de tout ça. Il le fait super bien.
Oui, mais voilà, c'est bien fait.
C'est un très, très grand metteur en scène. Après, moi, je trouve que j'aime beaucoup ce film parce qu'il a l'intelligence de prendre la violence et de prendre tout son monde, le monde qui s'était construit avec Courtrage Mais, avec Cassel, avec tous ses copains, et de le casser, de le manger à la façon burlesque, pop, un peu folle, ici et là. Je trouve qu'Isabelle Adjani, on ne l'a pas vue comme ça depuis des films et des films. Moi, j'aurais aimé qu'elle joue la daronne hein, quand je la vois dans ce film-là. Je ne dirais jamais assez de bien et combien il est génial, Karim Leclou, qui est quand même un acteur brillantissime
que vous retrouvez notamment dans la série Hippocrate,
qui est un acteur super parce qu'il a quand même un rôle totalement impossible à jouer. Finalement, même Vincent Cassel qui en fait 43 tonnes avec deux semi-remorques, eh ben ça passe. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont voulu se moquer un peu d'eux-mêmes, de leur façon
qu'ils s'éclatent
et que moi j'aime bien quand on se moque. Mais Thierry n'est pas d'accord.
Ah, ils se moquent d'eux-mêmes, non. Ça, non.
Ah si, ils se moquent.
Ils s'aiment beaucoup trop.
Bah c'est là. Voilà, on peut le voir sur les deux angles.
Là encore, je suis d'accord. Ils s'aiment trop, mais au moins ils rigolent d'eux-mêmes. Non.
Bon. La meilleure chose dans ces cas-là, c'est de vous faire votre propre avis. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez découvrir Le Monde est à toi sur OCS. On change complètement d'univers. On part vers un documentaire sur Prime Video qui s'appelle The Boy from Medellin. On est dans l'ambiance, un documentaire assez captivant, je dois dire, qui suit J Balvin. C'est un chanteur de reggaeton colombien. On le suit alors qu'il se prépare pour l'un des concerts les plus importants de sa carrière, dans le grand stade de sa ville natale, Medellín, en Colombie. Sauf que, en parallèle, dans la rue, la colère monte, la colère politique, la rébellion, la révolution, entre guillemets, toute proportion gardée. Et cet artiste va s'interroger sur sa place à la fois en tant qu'homme dans cette révolution, mais également évidemment en tant qu'artiste, en tant que porte-parole d'une certaine génération. Il va aussi devoir lutter contre une sorte de stress, d'anxiété un peu permanente. Voilà, c'est toujours un peu ces mêmes thèmes, mais la place de l'artiste dans la société, la place de l'artiste qui doit accompagner, précéder, seconder des révolutions politiques. Fabrice Leclerc.
Alors, je vais vous dire, moi, c'est un des gros coups de cœur que j'ai eu de ces dernières semaines et je m'y attendais tellement pas. Je vous avoue que moi, reggaeton et musique colombienne, j'étais un peu resté à Daddy Yankee et à Maluma, et juste parce qu'il avait fait un duo avec Madonna. Donc, vous voyez, je suis quand même extrêmement limité dans le dossier. Et j'ai découvert ce film. Alors voilà, c'est un rappeur. Ok, il fait de l'Instagram, il fait des photos avec ses fans, il retourne à Medellín, sa ville natale. Va y avoir un grand concert, c'est une star. Hein. Il a gagné des Grammys, il est connu dans le monde entier. Il y a la situation politique qui, voilà, ok, bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est le portrait de ce mec quand il enlève ses lunettes de soleil, son bob et son armure, et qu'il est totalement cassé. C'est un mec dépressif, c'est un mec qui ne sait pas où il va. C'est un jeune qui est vraiment totalement paumé. Il y a une scène sur son lit un soir où il est au bord des larmes. Moi, ça a failli me faire chialer. Et c'est vraiment l'histoire de l'imagerie du rappeur et du mec à fille. Et quand il tombe le masque, eh ben, mon Dieu, c'est terrible à vivre. Et je trouve que la caméra n'est jamais intrusive et qu'elle raconte ça, justement. Qu'elle raconte le show-off et le show-on. Moi, c'est un personnage qui m'a vraiment bouleversé.
Depuis, vous écoutez ses disques en boucle.
Et je vais écouter ses disques en boucle. Et non, mais franchement, je trouve que il y a une richesse dans ce personnage et dans ce documentaire musical, qui n'est pas un documentaire musical toujours un peu fastoche. Hein. Rappelez-vous dessus avec Mylène Farmer, c'était quand même quelque chose de grand sur Amazon.
Il arrive toujours à placer Mylène Farmer.
Ouais. Et Madonna, vous avez vu.
Hein. Bon, Thierry.
Non, franchement, grand coup de cœur de cette semaine.
Hein. The Boy from Medellin.
Ah, c'est beaucoup moins emballé.
Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui?
Beaucoup moins, parce que c'est le même problème que... Il y a un documentaire sur Billie Eilish qui est paru, qui est sorti. Il y avait un documentaire sur Mr. Gims. C'est produit par lui.
Ouais.
Et alors, oui, à partir du moment où c'est produit par lui, il montre ce qu'il veut. Et ce que dit Fabrice est très juste. Simplement, tout est contrôlé. Alors, ce que je préfère, c'est exactement ce qu'a dit Fabrice, c'est ça. Les trucs politiques. Mais c'est vraiment... Est-ce que je me mets bien par rapport à la caméra? Est-ce que je suis bien là dans le rôle du Che Guevara?
Non, mais c'est le cahier des charges d'Amazon, ça.
C'est le cahier des charges de lui qui se produit.
Ouais,
moi, j'aurais aimé le même film, mais produit par un autre qui aurait sans doute montré les mêmes failles, mais pas l'autre côté quand même, parce qu'il faut continuer à vendre des disques, parce que c'est toujours bien de montrer ses failles quand on est voilà.
Je trouve fascinant.
Moi, un très bon bonus DVD pour le. Ah. Si on est fan de cette... Moi, j'aurais été fan de lui, j'aurais adoré, par exemple, parce que comme je ne le connais pas, je reste à distance et je vois un bel exercice de manipulation réussi.
Ah non, alors moi, une jeune star mondiale qui montre ses failles et qui, un peu boulot, un peu paumé et qui sait pas où il a mal, franchement, moi, je vois pas ça souvent dans les documentaires musicaux.
The Boy from Medellin sur Prime Video. Comme ils sont pas d'accord, j'imagine que pour le dernier film, ça va être la même chose. On va parler d'Oxygène qui arrive sur Netflix, signé Alexandre Aja avec dans le rôle principal Mélanie Laurent.
Pourquoi je me souviens de rien?
Je suis Milo, votre médicale interface de liaison opérateur.
Milo, déverrouillage.
Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment.
Milo, s'il te plaît, je t'en supplie.
Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête. Appel entrant.
Allô?
Louise, on a presque plus de temps.
Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique.
Alors là, je vous préviens, les amis, faut pas être claustrophobe. Oui. Puisque notre amie Mélanie Laurent se réveille dans une sorte de capsule, de tube connecté, on va comprendre que c'est un tube de cryogénisation. Alors vous entendez, elle discute avec Milo, qui est une sorte d'intelligence artificielle. Le temps passe, l'oxygène baisse. On va petit à petit, je ne veux pas trop vous en dire, mais comprendre que elle était chercheuse et que c'est peut-être de sa faute à elle si elle est dans ce tube-là, et que c'est peut-être du coup elle qui, en allant chercher dans ses souvenirs, pourrait comprendre comment elle pourrait sortir du tube. Thierry.
Ah, voilà quelque chose que j'ai aimé.
Comment elle pourrait sortir du tube? C'est bien.
Non, moi, j'adore Alexandre Aja. Je trouve que pour le coup...
Il faut ouvrir les fenêtres quand on regarde ça. Hein.
Ah oui, mais pour le coup, c'est quelqu'un qui s'empare du genre et on fait quelque chose. Alors évidemment qu'on l'a vu, on a vu Buried, on a vu les films de Christopher Nolan aussi, dans le côté on ne comprend pas ou enfin on comprend. Oui. Bon. Mais ce qu'il arrive à sa mise en scène à l'intérieur de ce lieu clos, à un moment, il y a une piqûre qu'on doit lui faire, ça devient quasiment un combat contre un cobra. Enfin, c'est hyper inventif. Ça s'appuie sur une excellente comédienne. Parce que généralement, dans ce genre de film, ou très souvent, on est là juste pour crier. Mélanie Laurent incarne la chose et donc fait qu'on est avec elle. Alors, je ne dis pas qu'ici et là, il y a des choses de scénario qui marchent pas, mais il y a un plaisir de regarder ce cinéaste se régaler à le faire.
Un plaisir pervers.
Oui, et une actrice, moi je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles depuis longtemps, et c'est un retour en force et en forme de Mélanie Laurent. Voilà.
Fabrice Leclerc, Oxygène.
Si le film était sorti en salle, je pense que Mélanie Laurent aurait largement pu être nommée au César et même la voir, parce qu'elle fait une performance absolument hallucinante. Alors, je suis d'accord totalement avec Thierry. On a déjà vu ça.
On les met d'accord.
150 fois. Il y a le talent d'Alexandre Aja, talent de mise en scène, talent de narration aussi, parce que le scénario est assez filou. Et puis, je crois que ce film-là, il faut le comprendre aujourd'hui. Il faut le comprendre dans l'ère du Covid, parce que c'est un projet qu'il devait produire et pas réaliser. Ça ne s'est pas fait. Il a repris le projet pendant le premier confinement. Sachez qu'il l'a quand même, quand vous verrez le film, il l'a tourné à Ivry-sur-Seine.
Ça, c'est fort.
Alors, se dire que ce film-là a été tourné à Ivry-sur-Seine, j'habite à 5 km, moi, je fantasme déjà. Et non, franchement, c'est un truc qui se regarde, c'est vu mille fois. Mélanie Laurent, vraiment quelque chose. Il y a Malik Zidiou aussi, ouais, qui fait des apparitions extrêmement touchantes. Il y a la voix de Mathieu Amalric dans le rôle de Hal 9000, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Voilà, donc c'est un ordinateur. Non, c'est un film de genre total avec le grand talent d'Aja qui se regarde, non, sans ouvrir les fenêtres, mais avec peut-être une main ou une bouteille d'oxygène.
Quel enfer. Non, oxygène, justement.
Les références quand même au Covid on envoie des masques dans le film.
Oxygène.
Je n'en dirai pas plus.
Que vous retrouvez donc sur Netflix. On a aussi parlé du documentaire The Boy from Medellin sur Prime Video, du Monde est à toi sur OCS et du Monstre une nouvelle fois sur Netflix. Fabrice Leclerc, Paris Match, Thierry Chaise première. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour parler des films qui sortent et ressortent en salle, puisque ça y est, elles vont rouvrir et on va être très heureux de les accompagner.
On se quitte pas avec un peu de reggaeton
dans cette émission. Non, on va sortir. Il essaye les fans. Merci beaucoup à Nicolas Baudin qui réalise cette émission, Marjorie Adelson qui la prépare, émission que vous retrouvez en podcast. Et pour la radio, rendez-vous samedi prochain, 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.